Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La découverte d'un vestige archéologique pose la question du moment de sa formation et donc de son âge. Pour répondre à cette question du quand, on utilise depuis la deuxième moitié du XXe siècle la technique de datation au carbone 14. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que le carbone 14 est un isotope de l'élément carbone et qu'il existe d'autres isotopes venant d'autres éléments, comme l'oxygène, le strontium ou le soufre, qui peuvent nous livrer de plus amples informations sur les humains du passé, comme leur déplacement ou leur alimentation. Depuis le début des années 2000, cette méthode isotopique ne cesse de se développer pour nous livrer des portraits chaque fois plus fidèles de ces individus souvent morts avec leurs secrets. Notre invité du jour a fait de cette étude des isotopes l'une de ses spécialités et grâce à cette technique parvient à faire parler les morts, mais aussi à préciser les contours d'une sociologie du passé, notamment en matière d'inégalité. Comment cette enquête chimique nous permet-elle donc d'éclairer sous un nouveau jour l'histoire et celles et ceux qui l'ont faite? C'est la grande question que nous allons traiter avec vous. Rosane Colter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP et au Centre d'anthropologie génomique, une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Toulouse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à comprendre la place qu'occupent aujourd'hui les études isotopiques dans l'archéo-anthropologie. On va parler des méthodes utilisées en archéo-anthropologie pour dater les vestiges archéologiques, mais aussi pour obtenir bien d'autres informations qui permettent d'une certaine façon de redonner chair aux humains du passé et de dessiner leurs itinéraires. Et comme je le disais à l'instant, ce sont les isotopes qui vont nous servir de fil rouge dans cette enquête archéologique. Alors Rosane Colter, on va commencer par un tout petit rappel et un bref rappel de chimie. De quoi parle-t-on quand on parle d'un isotope ?
Un isotope, c'est une version d'un élément chimique qui est un peu différente, qui a un nombre de protons pareil, mais un nombre de neutrons différent. Par exemple, si on a un atome qui a un proton, on sait que c'est de l'hydrogène. S'il a 6 protons, c'est du carbone. S'il a 26 protons, c'est du fer. Donc, plus il est lourd, plus il a de protons. Mais par contre, s'il a un nombre différent de neutrons, ça ne va pas changer, c'est toujours le même élément. Ça va toujours être du fer s'il a 26 protons, mais il peut avoir une différence de neutrons. Et donc, on utilise comme ça l'isotope du carbone, donc c'est cassé 6 protons, mais qui peut avoir 12, 13, 14 neutrons. Et en fonction des neutrons qu'on utilise, on va pouvoir étudier différentes choses sur cet atome.
Alors là, on parle du carbone. Le carbone 14, c'est un peu l'exemple type en matière d'isotopes utiles en archéologie. Qu'est-ce qui, dans le carbone 14, justement, permet de dater le moment de la formation d'un vestige archéologique avec une plus ou moins grande précision ?
Alors, l'isotope du carbone 14, c'est un isotope qui est radiogénique, c'est-à-dire qui est radioactif, donc qui va se décomposer au fil du temps. Il va se désintégrer et on sait le temps qu'il met à se désintégrer. Donc, tous les 5700 ans, il va perdre la moitié de sa masse. Et donc, en faisant une règle de 3, comme ça, on arrive, quand on compte les isotopes du carbone 14 dans un échantillon, dans du collagène, on arrive comme ça à remonter dans le passé. Et donc, moins il a de carbone 14 qui va dans l'échantillon, plus il va être vieux. Et on arrive comme ça à remonter jusqu'à temps qu'il n'ait plus du tout, autour de 40 000, 50 000 ans.
Voilà, donc ça, c'est un peu la borne en matière d'utilisation du carbone 14. On ne peut pas aller beaucoup plus au-delà.
Mais après, on peut utiliser d'autres types d'isotopes. Donc, l'isotope, par exemple, du potassium-argon, lui, c'est pareil, il va désintégrer naturellement un rythme qui est connu. Et lui, on va pouvoir dater des choses beaucoup plus anciennes, des roches volcaniques, par exemple. Bon, c'est des principes que je connais moins. Mm-hmm. Mais nous, en archéologie, on utilise beaucoup, surtout quand on étudie les périodes récentes, le carbone 14. Et après, on peut aussi calibrer ces datations en fonction de l'endroit où on est. Donc, on a utilisé, pour savoir un peu cette baisse de carbone, on utilise la dendrochronologie, donc l'étude des cernes des bois. Et on cale un peu ça et on a des courbes de calibration qu'on peut utiliser, qui sont différentes dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, et qui nous servent à calibrer les dates quand elles reviennent de laboratoire.
Là, quand on parle de carbone 14, on parle typiquement d'un isotope instable. Qu'est-ce qui fait l'instabilité de cet isotope-là et quelle différence il y a avec, bien sûr, l'opposé, les isotopes stables ?
C'est juste justement le fait qu'il, lui, va se désintégrer. Alors que l'isotope stable, lui, quand la personne va mourir, il va rester coincé en fait, dans le collagène et lui, il va rester, il va pas, comme il n'a pas cette instabilité, on va pouvoir lire les résultats de cet isotope vont nous donner les derniers moments de la vie de la personne. On pouvait justement travailler sur différents types d'isotopes, comme vous l'avez rappelé au début, pour travailler sur l'alimentation, mais aussi sur la mobilité. Enfin, on a toute une une galerie d'isotopes, et puis ça ne cesse d'évoluer. Il y a plein de chercheurs. Moi, je ne suis pas géochimiste, donc moi, je suis archéologue au départ et anthropologue. Et donc, c'est une méthode sur laquelle je me suis greffée, mais il y a plein de géochimistes qui travaillent là-dessus, qui vont travailler sur des nouveaux isotopes pour chercher d'autres fonctions.
On va parler, bien sûr, de l'apport de ces isotopes à votre travail d'archéo-anthropologue, d'un point de vue de la méthode. Comment ça se passe étape par étape quand on découvre un vestige archéologique et qu'on cherche et qu'on mène cette enquête isotopique, justement, pas seulement sur le carbone 14, mais aussi sur les autres isotopes? Comment on va baliser le terrain des isotopes?
On peut travailler sur différentes choses, en fait, avec les isotopes. On peut travailler sur le collagène, mais on peut aussi travailler sur la bioapatite, donc des matières un peu plus dures qui vont se garder plus longtemps. Donc, si on travaille sur le collagène, d'abord, on va nettoyer l'échantillon. Enfin, on va déjà fouiller le squelette, évidemment, et après, on va déterminer, vouloir donc, faire une étude. Donc, on va prélever un morceau du squelette. En général, un morceau de côte ou un morceau de phalange suffisent. Donc, ce sont des os qui sont nombreux dans le corps humain et qui n'ont pas une grande valeur, on va dire, ostéologique. Enfin, si la côte n'est pas fracturée ou la phalange, on peut facilement la détruire, contrairement à d'autres os, par exemple comme le crâne ou le bassin, qui vont avoir une autre utilité d'un point de vue archéo-anthropologique pour déterminer l'âge au décès, par exemple, ou le sexe des individus. Donc, on prend des os, on va dire, qui ont une faible valeur scientifique. Et ces os-là, on les nettoie en laboratoire, donc c'est quelques grammes, hein. Puis après, on va extraire le collagène, donc avec des procédés chimiques particuliers. Et puis, une fois qu'on a réussi à avoir ce collagène, donc qui va ressembler un peu à une petite boule de coton, on va passer donc cet échantillon qu'on va peser. Donc, on fait des tout petits prélèvements, des petites capsules. Et ces petites capsules-là de collagène, on les met dans des spectromètres de masse qui vont brûler l'échantillon. Et on va après lire donc les données de ce spectromètre qui sont calibrées donc pour avoir le carbone et l'azote, mais qui peuvent être calibrées pour avoir le soufre, d'autres données. Et plus les isotopes les plus lourds vont brûler à la fin. Donc d'abord on a les plus légers qui vont brûler. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à lire en fait des pics. On a des pics et puis on arrive à savoir combien il restait dans l'échantillon de carbone, d'azote, de soufre. Voilà.
Il faut aussi parler du référentiel local des isotopes, puisque on prélève bien sûr des isotopes sur ces ossements dont vous parliez à l'instant, Rosenkolter, mais il faut aussi avoir une espèce de carte d'identité du lieu, de la région en matière de normes isotopiques.
Alors c'est ça le gros point d'intérêt, c'est d'avoir... On travaille à l'échelle d'un site archéologique, donc de plusieurs sujets qu'on va pouvoir séquencer, mais il faut le référentiel local, comme vous le dites. Donc on va prendre la faune qui est sur place, et à partir du moment où on connaît dans la chaîne trophique qu'un herbivore mange de l'herbe, nous on va pouvoir savoir l'humain... avec l'azote, on a sa chaîne, on a sa position dans la chaîne trophique, donc on va pouvoir savoir s'il mangeait des herbivores ou s'il était plutôt végétarien, s'il était plutôt carnivore, piscivore. Donc on arrive à voir ça avec la faune locale, puisque la faune locale, si elle est dans des champs qui sont beaucoup amendés, qui ont beaucoup de fumure par exemple, eh ben le sol il va être plutôt chargé en azote. C'est pareil, si la faune va manger une alimentation qui a des plantes de type C4, c'est des plantes qui sont très résistantes au soleil, qui sont efficaces parce qu'elles ne perdent pas beaucoup d'eau, et ben, comme le maïs, le sorgho, donc ça c'est des plantes qu'on ne trouve pas en Europe, qui ne polluent pas trop nos échantillons, mais le millet en fait partie, et le millet donc voilà, il peut renforcer ses valeurs de base d'azote. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir la faune locale à chaque fois pour pouvoir savoir vraiment où se trouvent les humains, nous, qu'on étudie.
Et un autre élément aussi, une question que je me posais, c'est quels avantages fournit l'étude des isotopes par rapport à une autre star en matière d'archéoanthropologie, l'ADN ancien?
Alors, sur les isotopes, on va vraiment parler du vécu de la personne. On va savoir donc ce qu'elle a mangé, donc avec le carbone et l'azote. On va savoir aussi où elle a vécu, en travaillant par exemple sur les isotopes de l'oxygène, du strontium et du soufre. Alors que sur l'ADN, on va plutôt savoir sa filiation, d'où elle vient cette personne. Donc on va pouvoir parler de matriarcat, de patriarcat, on va pouvoir parler de regroupement familial dans la nécropole par exemple, on va pouvoir parler de phylogénie, on va pouvoir parler d'épigénétique, donc tout ce qui entourait la personne. Mais notre ADN, il va pas changer. On a quelques mutations, mais on va pas changer au cours du temps.
L'ADN, c'est un peu finalement le livret de famille, et les isotopes, c'est plus le journal intime, la biographie d'un individu.
Ben voilà, les deux se complètent bien et les deux. Et en plus, maintenant, de plus en plus, on essaye avec le même échantillon, notamment si on travaille à partir des dents, d'essayer de faire et de l'ADN et des isotopes pour avoir détruire le moins possible ces échantillons.
Oui, là, vous le rappeliez aussi tout à l'heure, le fait que ces isotopes, on les retrouve dans des ossements qui ont une moins grande valeur, on va dire, archéo-anthropologique, là où l'ADN se situe dans des ossements plus rares, plus compliqués aussi à détruire.
Alors, ça évolue aussi, puisque les collègues qui travaillent sur l'ADN essayent de plus en plus de chercher des endroits où c'est plus réplicable, où aussi l'ADN est mieux conservé. On parle de l'os temporal aujourd'hui, mais voilà, ça dans les dents, ça marche assez bien aussi. Donc, on essaye d'avoir de pouvoir quelque chose de réplicable et de moins. Voilà, avoir des micro-prélèvements aussi. Donc, c'est des tout petits prélèvements qui sont faits pour extraire l'ADN et les isotopes.
Rosenkolter, je le disais tout à l'heure, les isotopes, c'est un peu le journal intime, ou en tout cas, ça retrace la biographie d'un individu. Ça nous permet et ça nous renseigne finalement sur l'enfance d'individus qui sont morts à l'âge adulte. Pourquoi est-ce que ça, c'est une information finalement aussi bouleversante et révolutionnaire en matière d'archéoanthropologie par rapport aux outils du passé?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre quand on travaille sur l'isotope, c'est si on travaille sur l'os, on va à peu près. L'os, il se remodèle tout le temps. Si on a une fracture, si on se casse la jambe, voilà, l'os, il va se reconstruire. Et donc, quand on travaille sur les phalanges, sur les côtes, comme je vous disais, on va avoir l'alimentation ou le lieu de vie de la personne à la fin de sa vie, dans les 10 dernières années de sa vie, en moyenne. Par contre, si on travaille sur les dents, une dent, si on se casse une dent, ben, on n'a plus qu'à la changer. Et donc là, si on travaille sur les dents, on va pouvoir savoir l'alimentation, le lieu de vie de la personne, là, au moment où la dent s'est construite. Et donc, on peut travailler, et c'est ce que j'avais fait sur un programme avec des collègues à Vancouver, c'est découper les dents sur la racine, sur le col, sur différentes étapes de la croissance de la dent. Et comme ça, on peut savoir où habite et ce qu'a mangé la personne au fur et à mesure de sa croissance. On a des collègues à Marseille qui travaillent beaucoup, genre, sur le sevrage, Stellar Share, par exemple. Donc, c'est des questions qui sont affiliés à certains types de collègues. Et c'est grâce à la dent qu'on peut faire ça. Et du coup, vous me posez la question
Finalement,
sur
le fait que
l'intérêt.
les isotopes nous permettent d'avoir des informations sur l'enfance d'un individu mort à l'âge adulte dans un passé plus ou moins lointain.
Voilà, et c'est tout à fait révolutionnaire puisque on peut savoir sur la personne adulte ce qu'elle a mangé quand elle était petite. Alors qu'avant, pour savoir ce qu'avait mangé la personne quand elle était petite, on n'utilisait aussi que son squelette. Et donc, on n'utilisait que des enfants qui étaient morts, qui n'avaient pas survécu, en fait. C'est ce qu'on appelle le paradoxe ostéologique qu'a identifié James Wood au début des années 90, donc c'est déjà assez vieux, qui disait, ben, on détermine, les enfants qu'on étudie dans l'archéologie sont que des enfants qui n'ont pas survécu. Et là, ben justement, on peut approcher des enfants qui ont survécu, parce qu'on va étudier l'enfance des adultes qu'on a, nous, sur les sites archéologiques. Et on se rend compte justement que ces adultes-là, quand ils étaient enfants, ils avaient une alimentation qui, justement, était meilleure ou était différente que les enfants, eux, qui sont décédés. Donc, voilà, ça révèle bien qu'il y a vraiment un effet de source aussi.
Rosenkolter, vous avez travaillé sur un site à Rennes, le couvent des Jacobins, de 2011 à 2013, un site avec un cimetière particulièrement fourni. J'aimerais comprendre comment ce site-là vous a permis de mener avec vos collègues des expérimentations nouvelles en matière d'archéologie isotopique.
Alors le site-là, donc on a plus de 600 squelettes, hein. C'est un couvent avec plein d'aires cimétériales différentes, c'est-à-dire que les frères dominicains pouvaient inhumer dans le cœur de l'église, mais aussi dans la nef, à l'extérieur de l'église, dans la salle capitulaire, dans le cloître. Donc on a plein d'endroits funéraires différents. Donc ces endroits-là topographiques, on a pu déjà les confronter les uns aux autres pour voir un peu justement l'alimentation des personnes en fonction d'où elles sont inhumées, puisqu'on évidemment en fonction d'où on est inhumé, on a des privilèges aussi différents, on est inégaux dans la vie et dans la mort. Et puis ça a pu servir à une collègue, Claudia Jaouen, qui était à l'époque à l'Institut Max Planck, de travailler sur d'autres types d'isotopes comme le zinc, qui sont des isotopes qui travaillent justement, ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'apatite, donc sur des matières dures qui sont minéralisées. Et donc, elle a pu mettre au point des méthodes là, sur le couvent des Jacobins qui, après, ont pu servir sur des populations beaucoup plus anciennes, Néandertal, par exemple, pour calibrer ces méthodes et voir qu'on voyait aussi les populations qui étaient plus ou moins carnivores, herbivores. Enfin, on voyait bien la chaîne trophique aussi avec d'autres isotopes Donc ça a pu servir comme ça d'étude.
Mmh. Ce couvent des Jacobins, il est célèbre pour avoir abrité aussi le cercueil de Louise de Quingot, une découverte qui avait fait grand bruit en 2014 et dont Vincent Charpentier avait évidemment parlé dans l'émission Le Salon Noir sur France Culture avec vous. On pourra bien sûr partager sur le site de l'entretien archéologique le lien vers cette émission. Louise de Quingot n'était pas la seule enterrée, bien sûr, on le rappelle, au couvent des Jacobins. Vous l'avez dit, il y avait plus de 600 sépultures. Il y avait des sépultures multiples qui témoignaient, Rosane Colter, d'événements violents dans le passé, une avec quatre individus, une autre avec une trentaine d'individus. Comment, dans ce cas-là, l'archéologie isotopique vous a permis de définir une identité à ce groupe composite d'humains qui étaient enterrés là et qui étaient morts vraisemblablement de façon violente?
Alors là, on avait fait aussi une émission à l'époque. En fait, c'était donc on avait deux sépultures multiples qu'on a retrouvées devant le couvent des Jacobins, donc à l'extérieur des murs. Et donc, on a pu chronologiquement rattacher ça au XVe siècle, à un moment où Anne de Bretagne et ses alliés ont perdu la bataille de Saint-Aubin-d'Aubigné du Cormier, je veux dire, et ils sont donc vraiment affaiblis et ils se retranchent dans la ville de Rennes. Et ces sépultures-là, donc elles ont un profil démographique particulier. C'est ça, j'aurais dû commencer d'ailleurs. Donc, ce sont que des hommes avec beaucoup de traces de coups. Hein. On a des sur les crânes, sur les membres inférieurs, sur le dos, on voit de l'acharnement. En fait, il y a des squelettes qui sont polytraumatisés. Et donc, ces deux sépultures-là, on se demandait donc si elles faisaient plutôt partie du camp d'Anne de Bretagne ou du camp français à l'époque de Charles VIII, donc qui était commandé par le commandant de la Trémoille, sachant qu'Anne de Bretagne, elle avait des alliés à l'époque, donc qui est l'allié anglais avec Charles VII d'Espagne, et puis Maximilien de Habsbourg, avec qui elle était fiancée. Et donc, pour essayer de démêler qui était où dans ces sépultures, on a travaillé sur les isotopes du strontium, du soufre et de l'oxygène. Donc, le strontium permet de nous révéler un peu le sol, si les roches sont plutôt sédimentaires ou métamorphiques. L'oxygène révèle plutôt, lui, le climat de la personne, l'altitude. Et le soufre, plutôt, lui, le rapprochement par rapport à la côte. Et donc, ces trois isotopes sont très intéressants pour un milieu breton, puisqu'on a un milieu de côtier et métamorphique, alors que juste après, on va avoir le grand bassin parisien. Et donc, ils sont très diagnostiques, en fait, pour essayer de voir si on a des populations qui sont plutôt d'origine locale ou pas. Donc, on avait pris, là, encore une fois, hein, la faune comme référence. Et avec un collègue, Clément Bataille, on a fait des cartes de probabilité, en fait, en combinant les trois isotopes, donc soufre, strontium et oxygène, pour essayer de voir d'où venaient les squelettes. Donc, on a pu faire comme ça 8 squelettes sur la grande tombe de 30 individus et 2 sur la petite tombe. Et on s'est rendu compte qu'on avait des profils d'origine géographique qui étaient complètement différents. Donc, c'est des cartes qui vont plutôt exclure des zones que nous donner vraiment une localisation de vie. Mais sur la petite tombe de 4 sujets, ça exclut justement les bassins sédimentaires, ça exclut les zones aussi vraiment continentales. Donc, ça marche très bien avec des sujets plutôt bretons. Alors que sur la grande tombe, là, on voit qu'on a plutôt des sujets qui sont exclus vraiment de la Bretagne. Et donc, on peut penser que sur le même lieu, enfin, en tout cas à proximité, on a enterré des sujets du français, hein, de l'armée française, et puis d'autres qui sont vraiment liés au camp breton.
Tout d'un coup, du coup, l'histoire se réécrit d'une autre façon grâce à cette enquête isotopique. Et Rosane Colter, on peut parler aussi de votre travail que vous conduisez à partir de ces isotopes sur la recherche, finalement, des inégalités dans le passé à partir de ces isotopes. Vous avez conduit un projet qui s'appelle AIDE pour Archaeology, Inequalities and Diet. Cette thématique-là des inégalités sociales, on y vient. Rosane Colter, elle est épineuse en matière d'archéologie et d'archéoanthropologie. Classiquement, quels sont les éléments matériels dont on dispose pour dire qu'il y a des inégalités dans un passé lointain ?
Sur les squelettes, on va pouvoir travailler sur l'archéologie funéraire. Maintenant, on sait qu'il y a des biais parce que c'est pas parce qu'on a du mobilier accompagnant le squelette que ça témoigne forcément d'une richesse. Ça peut être du mobilier qui est déposé, ça peut être du mobilier porté. Les archéologues peuvent travailler maintenant à partir de. C'est ce que fait l'équipe de Timothy Roller aux États-Unis, donc c'est un article qui avait été bien relié médiatiquement, je crois que c'était par 2018, quelque chose comme ça, où il parlait de la différence des différentes tailles des maisons, en fait. Il regardait la variabilité dans la population. S'il y avait des tailles qui étaient plutôt homogènes, on pouvait dire peut-être que la société était plutôt égale. Et puis s'il y avait des tailles vraiment hétérogènes, on avait peut-être des inégalités. En fait, en archéologie, on cherche des indices. On a très peu d'indices. On aimerait bien avoir un indice de Gini comme on l'a aujourd'hui sur les inégalités de salaire ou travailler sur les espérances de vie. Seulement, en archéo-anthropo, l'espérance de vie, c'est très compliqué parce qu'on a des populations qui sont mélangées. On ne peut pas savoir qui est enterré à quelle date, même si carbone 14, on a des données, mais c'est à plus ou moins 30 ans en général. Donc, on peut pas. C'est très compliqué de faire de la paléodémographie de façon claire. Et donc, ce qui nous reste, c'est étudier peut-être l'alimentation en faisant des hypothèses de groupe. Donc, c'est ce qu'on avait fait déjà aux Jacobins à l'époque. On avait regardé, en fonction du lieu d'où on était enterré, mettre des hypothèses qu'on avait des groupes qui étaient plus ou moins favorisés et comparer ça. Et ça marchait assez bien. On voyait que les sujets du cœur de l'église avaient une alimentation qui était beaucoup plus riche que justement ceux qui étaient enterrés à l'extérieur de l'église. Donc, on voyait, on arrive à voir ça à l'échelle d'un site. Et donc, sur le projet AIDE, j'avais continué à travailler là-dessus, mais en travaillant sur un autre site rennais qui a été fouillé par Romuald Ferrette et étudié par Élodie Cabot pour l'anthropologie, où là, on a le cimetière de l'Hôtel Dieu, donc qui est un vaste cimetière, la Cochardière, où on a presque 500 sépultures aussi, que l'étude a été finie il y a très peu de temps. Et donc, on a étudié presque 7% de ces tombes. Et en regardant où elles étaient aussi enterrées, en disant qu'il y avait peut-être un centre, un cœur dans le cimetière, et puis des zones périphériques. Et donc, on voit, c'est pareil, que les sujets qui sont enterrés dans le centre, ils ont une alimentation qui a l'air plus riche, en tout cas en azote et en carbone, que ceux qui sont enterrés en périphérie. Donc, on avait fait comme ça un centroïde et des extérieurs. Et puis, c'est là-dessus aussi qu'on a travaillé sur la carte d'identité de chaque personne. On a regardé comment elle évaluait. Mmh. Et donc, ce qui nous a conduit à essayer de chercher en fait un indice, comme l'indice de Gini, une dispersion en fait de ces valeurs. Parce que, donc, on disait que c'était très intéressant et que c'était chouette d'utiliser l'isotope parce qu'on avait la faune locale à chaque fois et donc on arrive à voir précisément à travailler. Mais c'était aussi un problème parce qu'on a du mal à comparer les sites entre eux. Donc, il y a deux lectures hein, pour l'archéologue, c'est on étudie au sein de notre site et puis après essayer de faire des choses un peu plus larges. Et donc, le projet AIDE, c'était travailler sur les acides aminés. Donc, c'est d'autres types d'isotopes. Donc, c'est à partir des protéines. Et là, on peut se dédouaner, en fait, de la faune. Puisque sur les protéines, on n'a pas besoin du référentiel. Ça décompose vraiment de façon précisément le régime alimentaire. Et c'est beaucoup plus précis. Mmh. Et donc, j'ai pu, comme ça, extraire les acides aminés de plusieurs individus de l'Hôtel Dieu pour justement enlever cette faune.
Alors, quand on parle d'inégalité, Rosenkolter, à partir de cet indice de l'alimentation, ça me pose une question. Est-ce que les marqueurs alimentaires et les marqueurs d'inégal accès à une certaine richesse alimentaire sont-ils toujours un indice d'inégalité ou bien est-ce que, selon les époques, c'est plus ou moins vrai?
En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui mangent beaucoup plus que d'autres, deux fois plus que d'autres. Alors, au bout d'un moment, c'est pas comme une égalité de richesse où on peut accumuler la richesse à foison, on va dire, hein, aujourd'hui, entre M. Bolloré et vous, il y a une sacrée
différence. Il y a un petit monde.
Donc là, lui, il peut accumuler. Par contre, entre son alimentation et la vôtre, s'il mange déjà deux fois plus que vous en protéines, ce sera déjà très important. Donc, on a toujours cette barrière-là biologique qui va faire que, évidemment, ce sera beaucoup plus cadré, mais on voit quand même les populations qui manquent de nourriture. Aujourd'hui, si on va regarder d'un côté ou de l'autre de la frontière de Gaza, je pense qu'on aura des marqueurs sur ces individus-là qui sont marqués à jamais, en fait, puisqu'ils ont un traumatisme. Dans les dents, c'est ce que je disais, ce sera écrit. Et donc, on arrive quand même à voir comme ça des différences, en fait. Oui. Après, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation, l'intérêt, c'est de travailler avec la culture. Le géochimiste, la personne qui travaille sur l'ADN, l'anthropologue qui travaille sur ces squelettes, il ne faut pas qu'il travaille tout seul, il travaille avec l'archéologue. Nous, c'est une remise en contexte, en fait, à chaque fois. Mais c'est des choses qu'on peut discuter ensemble.
Là, on parle d'inégalité sociale, d'inégalité de richesse, d'aisance, on va dire. Est-ce que d'autres types d'inégalités peuvent être mises en évidence par l'étude de ces isotopes? Je pense, par exemple, à des inégalités entre hommes et femmes.
Alors, oui, c'est une question qui nous a beaucoup intéressés avec Claria Jaouen. Donc, on a regardé nous, un indice de dispersion entre les plus riches et ceux qui mangeaient le plus et ceux qui mangeaient le moins, et on regardait dans les 10% ceux qui mangeaient le plus qui c'était dans la nécropole où ils étaient, et les 10% qui mangeaient le moins. Et en général, les personnes qui mangent le moins sont les femmes. Donc, alors c'est pareil, on se dit c'est normal, elles ont un plus petit gabarit, mais on a travaillé aussi. Pour sortir un peu des isotopes, on a pu travailler sur les statures aussi, pour regarder, et on se rend compte qu'on a toujours une différence de 10 cm en général entre les hommes et les femmes. Mais cette différence-là, elle évolue, elle n'est pas la même devant les sociétés, donc ce n'est pas une différence biologique en fait, on n'est pas programmé dès le départ pour avoir 10 cm de différence. D'ailleurs, dans une fratrie, il n'y a pas forcément 10 cm de différence. Donc c'est vraiment aussi, c'est aussi l'apport biologique, l'apport des protéines qui va créer cette différence. Et une fillette qu'on va moins alimenter que son frère, et ben du coup elle va peut-être aussi moins grandir, et ça se revoit après, c'est quelque chose de plus global.
Ce programme Aide Rosenkolter, il s'est achevé en 2023. Dernière question, quelle suite vous pourriez donner à ce programme-là? Quelles sont les questions encore en suspens, les développements encore à apporter pour améliorer cette technique déjà révolutionnaire des isotopes?
Eh ben là, je travaille actuellement sur une publication donc qui va essayer de synthétiser en fait c'est un peu ces marqueurs d'inégalité de santé. Et puis sur le projet Aide, je me suis rendu compte, contrairement sur les acides aminés, c'est beaucoup plus précis, mais c'est quand même très onéreux et ça prend beaucoup de temps. Et donc c'est une démarche qui va être difficile à démocratiser et pour faire sur tous les cimetières. Et donc moi j'aimerais bien que la méthode isotope standard déjà carbone azote puisse être démocratisée et quasiment se fasse sur tous les cimetières qu'on trouve, puisque c'est quelque chose qui n'est pas techniquement compliqué, qui n'est pas non plus sur un os qui est aussi, enfin qui peut être étudié. Donc je pense que ça pourrait être vraiment démocratisé et puis qu'on arrive à le valoriser et vulgariser plus facilement, quoi.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Rosenkolter, d'être venu aujourd'hui nous parler de cette technique, je le disais, révolutionnaire de la méthode isotopique, et comme quoi finalement la géochimie peut nous éclairer sur l'histoire et les cultures du passé. Toutes les sciences sont de la culture. Merci infiniment d'être venu à notre micro aujourd'hui. À très bientôt.
Merci.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Hélène Triguéros et Olivier Bétard. Merci à Anthony Thomasson et Jean-Guilain Meige, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.